France Inter.
Le peintre, sculpteur, poète et réalisateur Martial Reiss est un être spirituel, secret et réservé. D'abord pionnier du nouveau réalisme français dans les années 60, celui qui fera des compositions avec des objets de supermarché, des néons, des photographies, du plastique ou des jouets, rompra totalement avec ses débuts, aussi bien d'un point de vue matériel que stylistique. Il vivra à New York, Los Angeles, en Seine-et-Marne, puis en Dordogne, traversera un désert financier et un dégoût pour le milieu de l'art, dont le feront revenir l'homme d'affaires et collectionneur François Pinault et le producteur Marine Karmitz. Le lauréat du prestigieux prix Premium Imperiale en 2014 a eu un nombre impressionnant de rétrospectives. Du jeu de paume et Beaubourg à Paris, en passant par Bruxelles, Venise ou Amsterdam. Après une importante exposition au musée Paul Valéry de Sète, le dévot des maîtres anciens donne à voir près de 30 œuvres récentes, aboutissement de 10 années de travail à la galerie Templon qui, elle, fête son 60e anniversaire et organise l'office à cette occasion. L'opportunité de découvrir des tableaux à haute teneur symbolique qui dévoilent les enjeux du monde contemporain. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Martial Reiss.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La brume ce matin sur les champs.
Vous vous levez tôt ?
À 4h du matin depuis 60 ans.
Et vous vous couchez à quelle heure ?
À 10h.
Vous êtes entouré d'animaux ?
Oui, j'ai des poules et une chèvre voilà. Et puis des vaches. J'avais des vaches, mais j'ai plus de vaches maintenant. C'est trop de travail.
Vous leur donnez des noms ?
Non.
Vous leur parlez ?
Non plus. Non, non. Non. Quelque part, des individus pensent ça s'associe à l'idée qu'ils sont aussi des animaux, mais pas moi.
D'accord. Est-ce que le fait que vos parents aient été céramistes vous a influencé ?
Je pense, oui, parce qu'ils avaient le goût des belles choses. Et puis, mon père m'amenait souvent à Valoris, où j'ai connu du reste Picasso quand j'étais tout petit. Et j'étais en contact avec de la beauté, et surtout des fabricants de la beauté. Ça m'a toujours impressionné, vous savez, les mouleurs de peau. Ils prennent un bloc de terre qu'ils mettent sur un tour, qu'ils agitent avec le pied, et rêvent qu'avec les mains, ils font naître les formes. Ça m'a bouleversé. Et ça, c'est une grande source d'influence, d'inspiration pour moi.
Vous seriez devenu écrivain et poète si vous n'aviez pas eu besoin de mettre des mots sur des choses que les mots ne pouvaient pas traduire. Vous avez commencé à peindre et à écrire des poèmes vers l'âge de 19 ans. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous y faisiez figurer ?
Je faisais figurer les choses qui m'entouraient, surtout je me suis élevé à Boulogne-sur-Mer au bord de l'eau, près d'un petit port ravissant. Et alors dans mes poèmes, je parlais des palmiers, de la mer, des rochers, de la pêche, des choses comme ça, très simples. Mais j'avais si vous voulez, ce qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un sentiment poétique, qui écrit eux-mêmes. Mais ce qui est très important lorsqu'on veut être poète, c'est de bien connaître les techniques de la poésie, la manière dont s'agencent les mots, ils doivent s'agencer les mots. Ce sont des pratiques qui datent depuis très longtemps, qui sont perfectionnées, qui devront ça aujourd'hui, chaque fois, progresser un peu. Mais maintenant, ils sont assez riches en principes qu'il faut absolument connaître et respecter.
Vous les aviez appris, ces principes, pendant vos études de lettres ou vous les avez étudiés seuls ?
Je les ai appris. Je les ai connus à travers mes expériences en Cagne, en Hippocagne. Mais ce qui est important, c'était que je les pratique moi-même.
Qui vous a le plus influencé entre Mallarmé, Ronsard et Nerval ?
Les trois.
D'accord, très
bien. Je ne fais pas de hiérarchie dans la poésie française. Si vous voulez, ils sont tous très bons, et donc on peut un soir aimer l'un matin aimer l'autre, mais enfin, c'est égal. C'est des merveilleux poètes.
Alors, je remercie la galerie Kamel Mennour parce qu'elle nous a envoyé un PDF de votre ouvrage 13 sonnets. Est-ce que vous voulez bien nous lire un de vos poèmes ?
Alors, je vais essayer, mais j'ai cette voix des gens du midi qui sont peu propices à la lecture des poèmes. Mais enfin, je vais y aller. Allez, Martial, au courage, vas-y. Alors, la lune morfondue de la mort oubliée berce le vœu secret dans les yeux de l'aimé. Berce le vœu secret dans les yeux de l'aimé, d'un poème évanoui dans la nuit sacrée, belle nue intrépide de ma joie enlacée. De cette aube disjointe aux filles des crimes gris se montre la candeur des impairs adoucis. Plus de monde, on dira, de ces sonnets sertis, sur les gazons jaunis dort un si vain souci. Ainsi, nos vies tressées à soutenir le monde, arc-boutent l'espoir au fin fond de la ronde, tournées doux vertiges dispersés dans le temps. Car au secret du cœur parle la chair qui meurt. Alors un cri cru strie des sources de la peur, bout de nos entrailles ouvertes à tous les vents.
Merci beaucoup. Martial Reich, je vous ai entendu juste avant le poème vous dire à vous-même « Courage Martial », et c'est le nom d'un de vos autoportraits,
oui,
quand vous aviez eu des problèmes de santé.
Oui.
Quel rôle a joué cet autoportrait ? Est-ce qu'il était suffisamment sévère pour vous donner du courage ?
Et oui, oui, en effet, si vous voulez. Il y a un moment dans la vie où, suivant les circonstances, moi j'ai vécu la résistance et je sais qu'est-ce que c'est d'être sorti de son lit par la Gestapo à 3h du matin. Et donc, il y a un moment donné où on prend toute sa force, toute son énergie et on est au seuil de sa vie. Et alors là, j'avais été très malade et il y a un moment où j'ai eu un sursaut. Je me suis dit « Courage Martial » et j'ai eu l'idée de faire ce tableau qui est d'une grande force, une très grande réussite, je pense.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Martial Reich, vous venez de l'évoquer, vous avez eu des parents résistants dénoncés quand vous étiez enfant, votre marraine est morte sous la torture, vous vous êtes caché dans le Vercors, oui, avec votre mère et votre sœur. Je raconte tout ça, bien que je vous cite quand on vous interroge à ce sujet, vous dites détester les artistes doloristes, misérables et pleurnicheurs, mais je suis obligée de vous poser la question, êtes-vous encore hanté par cela ? Je pense notamment à votre tableau La peur qu'on peut voir en ce moment chez Templon, où il y a à la fois comme des échos de la Gestapo et de la guerre en Ukraine.
Oui, exactement, mais vous savez, c'est des choses qui ne vous quittent jamais. Hein. Mon père avait toujours des cauchemars très vieux, que la Gestapo était à sa porte. Donc, c'est des choses qu'on n'oublie pas, qu'on porte en vous. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, la violence, tout ça, on est ému et on participe de la douleur de ces personnes-là. Vous savez, j'étais dans le Vercors, c'était très impressionnant. On surplombait la plaine et de temps en temps, on le voit dans mon tableau, la peur. De temps en temps, on voyait des fermes qui prenaient feu. C'est parce que les Allemands soupçonnaient qu'ils ravitaillaient le maquis et ils mettaient le feu. C'était très poignant d'être au-dessus, comme si on regardait, voyant en bas, les fermes brûlées, on savait qu'ils avaient tué le propriétaire.
Est-ce que vous faites des cauchemars ?
Non. Non, je suis assez solide d'esprit.
Quel est votre rapport à la mort ? Parce qu'il y a beaucoup de figures macabres dans vos tableaux et je pense notamment à un tableau qui s'appelle La Reine du Monde, où on voit une femme assez affriolante, mais elle a un masque qui est le visage d'un crâne et on voit le ciel d'ailleurs à travers une de ses orbites et elle tient dans sa main un chapelet de petits crânes. Elle est à la fois incroyablement vitale, la vie même et la mort.
Oui, parce que la mort, ça fait peur, mais c'est un phénomène naturel. Donc je pense qu'on meurt d'une manière naturelle. C'est pas quelque chose d'anormal, si vous voulez, c'est une chose normale.
Ça vous fait peur ?
Bien sûr, ça me fait peur, ça fait peur à tout le monde. Mais si vous voulez, c'est une chose qui s'acclimate. Et j'ai toujours pensé que la mort est une déchéance une fois qu'on est mort. Mais sur le moment de la mort, c'est comme une compagne qui arrive parce qu'elle a toujours fait partie de notre vie.
Vous pensez qu'elle est toujours derrière votre épaule, comme le fameux autoportrait de Courbet avec la mort qui guette ?
Oui, comme le disent les maîtres Chan, la mort est sur notre épaule.
Les maîtres Chan ?
Chan, oui. Chan, c'est la formule chinoise pour le zen.
D'accord. Vous étudiez le zen ?
Oui, oui, j'y étudie, je pratique. Je suis un spécialiste, même. Je suis très fort là, sur ces questions de méditation et de connaissance de la sagesse. Je ne suis pas sage, mais je connais très bien les voies de la sagesse.
Mais vous ne les empruntez pas.
Si, j'espère. J'essaye de les emprunter.
Et vous méditez tous les jours ?
Oui.
Ça fait longtemps, vous avez toujours eu un côté spirituel.
Oui, je médite maintenant depuis, je ne sais pas, 70 ans.
70 ans.
Depuis l'âge de 18 ans, donc je crois que ça fait 78.
C'est extraordinaire, vous avez appris en autodidacte ou...
Oui. Non, c'est-à-dire, non, j'ai eu un gourou, une dame qui avait travaillé avec Gurdjieff et qui m'a donné quelques informations sur la manière de se tenir, de respirer, etc.
Est-ce que vous pouvez nous faire un mini cours de méditation là, par exemple, pour les auditeurs, si on doit méditer tous les jours, combien de temps, dans quelle position et comment ?
Il faut méditer le temps qu'on se sent de méditer. Si vous voulez, la méditation, il faut avoir une position qui vous correspond. On peut méditer avec les jambes nouées comme en lotus. On peut méditer aussi, comme je le fais maintenant, parce que je suis âgé, assis sur un siège avec une corde qui passe dans le dos et qui joint les genoux, qui est une posture qui est connue et respectée dans le yoga. Il y a des statues même de personnages dans cette position-là. L'important, c'est de chasser, d'arrêter le disque qui tourne sans cesse dans la tête et de tâcher de tenir le plus longtemps possible. Mais enfin, 20 minutes, c'est assez bien chaque matin.
Mais vous y arrivez ? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter le disque qui tourne dans la tête ?
On regarde son nez.
On regarde son nez ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui.
Donc vous ne fermez pas les yeux quand vous méditez ?
Si, maintenant j'ai l'habitude, je vous dis comment on fait. Au début, on regarde son nez. Au début, on regarde son nez, on essaye de penser à rien.
Puis d'accord.
Après, ça devient normal. Vous pouvez méditer les yeux ouverts, même regarder quelque chose. C'est pas mal d'avoir une petite bougie.
D'accord.
Très petite.
On peut regarder.
Il faut la regarder. Pour se concentrer. Tout le problème, c'est de se concentrer.
Alors là, j'ai commencé par la mort, je me tourne vers la vie, mais de toute façon, les deux sont liés. Le corps du peintre, c'est très important. Là, on parlait de méditation, mais vous l'avez entretenu, vous avez pratiqué l'athlétisme, vous étiez sprinteur puis marathonien. Comment vous entretenez-vous aujourd'hui ?
Maintenant, je fais des marches. Enfin, pas très long, mais je marche sur mon chemin. Enfin, je passe 200 mètres chaque jour. Et puis, la méditation le matin, voilà. Et puis, je travaille beaucoup dans une ferme, enfin, je vis à la campagne, donc il y a toujours à faire, il y a toujours le travail, remuer la terre, bouger la paille, je sais pas, enfin, il y a toujours du travail physique.
Alors, j'aurais pu vous parler des années 60 dont on vous a tant parlé, mais vous vous en êtes détourné, je propose d'aller de l'avant.
This generation's greatest author and poet, writer of A Streetcar Named Desire and Cat on a Hot Tin Roof, unashamedly writes of a woman's strong wants and a man's strange needs. Six great stars combine their talents to recreate Suddenly Last Summer, Tennessee Williams' magnificent drama.
Something horrible happened to that girl last summer. Some dreadful traumatic experience of some kind.
What?
It was a one-piece bathing suit made of something white. The water made it transparent. I told him I didn't want to swim in it, but he just grabbed me by the hand and dragged me into the water, all the way in. I came out looking nude.
Why did he do that? Do you know why he did that?
Yes. You know why I was doing it. I told you.
Martial Reis, vous avez fait un tableau. Alors, j'ai promis que je ne parlerai pas des années 60, mais je vais quand même en parler un tout petit peu.
Oui, je veux bien, ça ne me dérange pas. Mais...
Ah, ça ne vous dérange pas ?
Non.
Bon, mais c'est parce que je ne vais pas vous parler de votre slogan « Les prises uniques sont les nouveaux musées d'art moderne » et toute cette période-là.
Oui, non, mais il faut comprendre que le monde de l'art était absolument dominé par l'abstraction. Et à travers Marcel Duchamp, les nouvelles générations dont je faisais partie, on redécouvert le réel, les objets. Et donc, pour moi, le prix unique qui était... J'étais très pauvre à cette époque-là, terriblement pauvre. Et alors, le prix unique m'apparaissait comme un paradis où j'aurais pu acheter ci et ça.
Alors là, si j'ai choisi de passer un extrait de Soudain l'été dernier de Mankiewicz d'après la pièce de Tennessee Williams, c'est parce que c'est aussi le titre d'un de vos tableaux oui. des années 60. Et il y a aussi un clin d'œil à Anna Karina dans La France verte. Oui. Je voulais connaître l'influence du cinéma, puisque vous avez aussi fait des collages et des films, l'influence du cinéma sur votre œuvre.
Je ne sais pas si le cinéma a beaucoup eu d'influence sur mon œuvre en soi, c'est-à-dire sur ma peinture. Le cinéma, pour moi, à l'époque, a été intéressant parce que c'est les personnages qui sortaient du tableau et qui s'animaient. Mais, à part ça, la peinture, l'intérêt de la peinture, c'est que ça ne bouge pas, que c'est statique. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de divertissement de l'esprit quand les choses bougent. Donc, le cinéma, à mon avis, on peut créer des émotions en jouxtant des personnages, mais un sentiment très profond, spirituel, je dirais, une émotion très profonde, certainement on peut la créer avec le cinéma, une émotion spirituelle, j'en doute.
Et on revient à la concentration, à l'immobilité. Vous pratiquez un dialogue avec les grands maîtres depuis toujours, depuis les années 60. Vous avez fait des études après Raphaël, vous avez entretenu des conversations avec le Titien, Cranach, Ingres. On connaît évidemment votre œuvre Made in Japan, La Grande Odalisque. Pourquoi rendez-vous si souvent la peau du visage des femmes verte?
C'est-à-dire, maintenant par exemple, je suis plus proche de la réalité. Mais à l'époque, ça me plaisait de... J'avais le sentiment que je devais transposer ma peinture, ma lecture de la peinture, du réel, à travers des couleurs qui me paraissaient, si vous voulez, j'avais le sentiment d'aller, de faire un au-delà de la couleur et un au-delà de la vie. C'est pour ça que j'utilisais des couleurs stridentes et qui ne ressemblaient pas du tout aux couleurs que l'on voit dans le monde en général.
Vous disiez déjà en 92 que vous étiez un primitif comme Giotto. Est-ce que vous le pensez toujours?
Oui, parce que si vous voulez, l'intérêt et le rapport maître très ancien, c'était les premiers à voir le monde et le transposer. Donc il y avait un rapport très pur entre leur action de peintre et la réalité auquel ils étaient confrontés. Et cette espèce de pureté dans le rapport au monde que doit avoir le peintre, pour moi, c'est primordial.
Vous dites que l'art a à voir avec la vérité.
Oui, absolument.
Alors là, je pense au primitif et je pense à l'apparition de la perspective dans la peinture. Alors vous, c'est assez amusant, Martial Reiss, puisque vous dites que c'est en regardant les branches d'arbres dans votre jardin que vous avez eu conscience de la perspective.
Oui, absolument. Absolument, alors que... À l'époque, j'ai commencé à me confronter avec les maîtres anciens. En regardant les arbres, tout à coup, je me suis dit, ben voilà, le premier plan chez Raphaël et un second plan, voilà, il y a une première branche, une seconde branche, une troisième branche. Et la nature m'a appris ce que la peinture a dû m'apprendre.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez commencé à méditer à l'âge de 18 ans.
Oui.
Mais je sais que vous avez traversé une période de drogue dont vous parlez publiquement, c'est pour ça que je me permets d'aborder. Vous aviez fait par exemple l'exposition Coco Mato placée sous le signe d'un champignon hallucinogène, et je sais qu'à Venise aussi, lorsque vous y étiez, c'est une période de grande consommation de drogue. Comment est-ce que ça a évolué dans votre vie, ça? Puisque on dirait que vous êtes quelqu'un qui est dans la maîtrise totale de son être et de sa spiritualité et de son corps.
On peut être tout à fait maître de son corps en étant drogué.
Ah oui?
Ah oui, oui, bien sûr. La drogue à cette époque pour nous, je pense que c'était un problème politique. C'est-à-dire politique dans la mesure où le monde était... La politique en France est devenue très répressive. C'est l'époque de Marcelin, etc. Et alors, on avait besoin d'un exutoire, quelque part. Et la drogue s'est présentée. Alors, comme il y avait un côté un peu ludique aussi dans cette pratique-là, je pense que les jeunes gens, c'était pas comme moi, se sont un peu aventurés dans la drogue. Mais enfin, c'était du hashish, c'est pas l'héroïne. Hein.
D'accord. C'est après la Biennale de Venise que vous avez commencé à prendre vos distances avec le milieu de l'art, à en être un peu dégoûté?
Oui, parce que, en principe, c'est moi qui devais avoir le Grand Prix. Mais ils l'ont donné à Rauschenberg, qui est un grand artiste, hein, après toutes sortes de tractations qui étaient pas embarrassantes et qui m'ont révolté.
Alors là, vous parlez d'une traversée du désert qui a duré près de 18 ans. Vous avez vendu des vaches pour survivre.
Oui, oui.
Et vous dites, vous avez écrit dans un texte manifeste, « Je suis de plus en plus convaincu qu'il faut revenir au désert ». Là, c'était littéral.
Oui, absolument. Oui, alors je ne vendais pas des vaches, mais c'est un peu, je dis ça parce que c'est amusant. C'est parce que le vrai commerce, c'est qu'on a des vaches, elles font des veaux, et on vend le veau aux Italiens qui aiment beaucoup la viande de veau.
D'accord.
Une pression technique.
Et vous n'avez jamais été découragé pendant ces près de 2 décennies?
Je pense que quand on est un artiste authentique, rien ne peut vous décourager. C'est comme une vocation, donc rien ne peut se mettre en... Et puis, il est écrit nulle part qu'un artiste doit vivre de son travail, hein. C'est pas écrit. Quand on est peintre, il vaut mieux acheter un sac de pommes de terre et de l'espérance que le reste.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Martial Reiss, avec vous, ce n'est pas splendeur et misère, mais misère et splendeur, puisque dans les années 90, l'homme d'affaires et collectionneur François Pinault et le producteur Marine Kermit s'intéressent à votre travail. Et j'ai lu dans le magazine L'Œil récemment que François Pinault était venu vous rendre visite en vous disant « On m'a dit tellement de mal de vous que ça m'a donné envie de vous rencontrer ».
C'est exactement ces paroles, parce que c'est quelqu'un de très intelligent et de très subtil, donc... C'est exactement ses paroles, et je suis sûr que c'est ce qu'il a pensé.
Mais alors, quel mal disait-on de vous?
Je ne sais pas, que j'étais inconstant, que je faisais ci et ça en peinture, que je changeais trop souvent. Enfin, je ne sais pas, des choses désagréables, c'est tout, qui lui avait été dit. Peut-être un peu pour le dissuader de s'intéresser à moi. Vous savez, c'est un monde où comme... Il y a une grande amour-propre dans la dans l'artiste. Il y a beaucoup de rivalité et de jalousie. C'est un milieu assez épouvantable pour ça.
Excusez-moi, je rigole, mais parce que ça ressemble à beaucoup de milieux artistiques,
oui,
d'après
c'est partout,
ce que j'en entends.
C'est partout,
enfin,
oui.
Même partie.
Oui, oui.
C'est l'humanité, finalement.
Oui.
Pinault dit qu'il fallait vous faire sortir de la thébaïde dans laquelle vous étiez mis tout seul.
C'est-à-dire, oui, il voulait dire que... Je ne montrais pas mon travail, donc j'étais solitaire et inconnu. Il fallait me faire connaître à nouveau.
Et, oui, et ça a fonctionné à partir du moment où vous êtes entré dans sa collection?
Absolument.
Par un matin du mois d'avril, environ l'aube du jour, moi, Polyphile, étais en mon lit, sans autre compagnie que de ma loyale garde Agrippine, laquelle m'avait entretenu toute cette nuit en plusieurs propos et mis en peine de me consoler car je lui avais déclaré l'occasion de mes soupirs. À la fin, pour tout remède, elle me conseilla d'oublier tous ces tourments et de cesser mon deuil. Puis, connaissant que c'était l'heure que je devais reposer, pris congé et me laissa seul.
Lecture du songe de Polyphile par Marc-Henri Boisse sur France Culture en 1994. Martial Reiss, vous avez réalisé un ensemble de 7 tableaux inspirés de ce songe.
Oui.
La mythologie vous a influencé, je peux citer aussi dans votre œuvre L'Enfant de Bacchus ou Actéon au féminin. Quelle est l'influence de la mythologie sur vous dans votre œuvre?
Ben moi, j'ai fait des études assez poussées, donc spontanément... La culture grecque m'a beaucoup affecté, et donc il était naturel qu'avec le temps, elle ait une influence sur ma peinture et surtout ma conception du monde et du rapport aux choses.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de spiritualité, de zen, de méditation. Vous avez fait un film intitulé Ex Voto. Vous avez réalisé des vitraux pour l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance à Paris. Quel est votre rapport à la foi ou au sacré ou à la transcendance, quel que soit le nom que vous lui donniez?
Je pense que le fait d'être en vie, cette sensation d'être en vie, si on a profondément la vie en soi et qu'on a peur de la mort, il y a un instant où on aborde le sacré. Et on aborde le sacré, et une fois qu'on aborde le sacré, qu'on accomplit comme il y a le miracle d'être sur Terre, on trouve la plupart des choses miraculeuses, les êtres, les oiseaux, les plantes et même les discours des uns et des autres, parfois.
Vous avez publié « Qu'il est long le chemin ». Pensez-vous avoir quelque chose d'un moine anachorète ?
Non, je suis quelqu'un, je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui connaît bien les chemins de la sagesse, mais je suis loin d'être sage encore. J'ai un chemin.
Alors, je crois que vous avez fréquenté des chats, on en voit même dans un de vos films, c'est un animal assez méditatif, mais sur vos tableaux, il y a des chiens noirs.
Oui.
Et je pense notamment, il y en a un sur la peur, mais il y en a un sur le chien noir n'en fait qu'à sa tête.
Oui.
Est-ce qu'il est comme vous ? Est-ce que vous n'en faites qu'à votre tête ?
Je pense. C'est un chien qui appartenait à François Pinault. Et il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, il n'en fait qu'à sa tête. Alors j'ai décidé de le peindre. Mais les chiens sont souvent comme ça. Hein. Ils sont plus indépendants que les chats.
Ah bon ?
Oui, les chats vadouillent à droite à gauche, mais ils reviennent toujours très bien. Les chiens peuvent ne pas revenir.
Oh, alors là, écoutez, je ne sais, j'en reste quoi ?
Ah bon ?
Oui.
Vous avez un chat ?
Non, mais j'ai fréquenté un chien pendant assez longtemps.
Oui ?
Et il ne serait jamais parti.
Ah bon ?
Non.
Mais parce que, je ne sais pas.
Peut-être moi, quelqu'un qui aurait eu des saucisses.
Moi, j'ai des chiens qui sont partis. Hein.
Ah, je suis désolée.
Oui.
Chien infidèle.
Oui.
Or, un eau de guerre vint, tenant ses tripes dans ses mains. Sa mère était sur le créneau, qui vit venir son fils Renaud. Renaud, réjouis-toi, ta femme est accouchée d'un roi.
On entend la chanteuse Cora Vauquer chanter la complainte du roi Renaud. C'est
oui.
aussi le nom d'une de vos statues en papier mâché, inspirée du dieu Priap,
oui.
Martial Rice. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, le roi Renaud ?
Mais le roi Renaud, je trouve que c'est un très beau texte. Je trouve l'image et l'idée merveilleuse. Parce que, si vous voulez, il rentre de la guerre et bon, il est peut-être heureux dans son cœur. Les gens sont contents de le voir, mais il tient ses tripes et il va mourir en fin de compte.
Oui, il tient littéralement ses tripes dans ses mains.
Dans ses mains. C'est ce côté-là qui m'a frappé et que j'ai fait dans ma statue.
Est-ce que ce sont les matériaux qui dictent vos œuvres ou l'inverse ?
Non, vous avez une idée, puis tout à coup, il vous vient la matière pour la faire. Ouais. Non, c'est plus jamais le contraire.
Alors moi, je suis fascinée par le tableau périodique des éléments et vous faites des statues en bronze parfois. Et le bronze, c'est 90% d'étain et 10% de cuivre, ce qui déjà, ça, on dirait de l'alchimie.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler du procédé de fabrication, de fondre les matières, presque un acte magique ?
C'est un acte magique, mais que c'est pas le sculpteur en principe qui le fait, c'est le fondeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait toujours les statues en argile. Et cette argile, on fait un moule en plâtre, et ce moule en plâtre, on coule du bronze dedans, qui est un mélange, comme vous venez de le décrire. Et ensuite, on déboîte et on fignole un peu les parties qui sont trop rugueuses. Et puis, soit on fait une patine d'une couleur, soit on fait une patine d'autre couleur. Moi, j'utilise la plupart du temps la couleur qu'on appelle Rosso Fiorentino, qui est un rouge un peu cuivré.
Il y a une de vos sculptures en plastique et papier mâché qui date de 2020 et qui est intitulée « Il m'arrive de me sentir si seul ». Je voulais connaître votre rapport à la solitude.
Je suis un être assez solitaire d'esprit, mais je le vis très bien. Je peux rester des mois tout seul. Heureusement, j'ai une épouse charmante et des enfants délicieux. Mais bon, ça c'est hasard de la vie. Mais j'aurais pu rester tout seul parfaitement. Je suis parfaitement bien avec moi-même.
Ah waouh, c'est rare.
Oui, je m'entends bien avec moi-même. Oui.
Au départ, d'après vous, qu'est-ce qui décide du succès d'un ballet? Est-ce la chorégraphie? Est-ce la musique?
Mais je crois que tout dépend d'où vient l'inspiration. Si l'inspiration vient de la musique, c'est évidemment la musique qui commence. Si ça vient du livret, c'est le livret qui commence. Mais prenons le cas du livret en premier, par exemple. Je crois que le plus important, ce sont les premiers 15 jours ou le premier mois, le livret. Ensuite, le deuxième mois, c'est la musique. Ensuite, c'est la chorégraphie. À partir du moment où le livret est écrit, la musique est écrite, c'est la chorégraphie qui est la plus importante. Et je crois qu'au moment où le rideau se lève et où le public assiste pour la première fois au spectacle, je crois que tout est aussi important, c'est-à-dire le livret, la musique qui a été faite après, la chorégraphie qui a été faite après, les décors et les costumes qui ont été faits après. Je crois que tout est aussi important et que tout contribue au succès d'un spectacle.
Martial.
Il n'est pas très malin celui-là. C'est l'esprit méthodique, c'est pas vrai du tout, c'est tout ce qu'il raconte.
Mais vous l'avez reconnu ?
Non.
C'est Roland Petit sur la RTF en 50, parce que vous avez...
Le pauvre, oui.
Vous avez travaillé pour ses ballets.
Oui, j'ai travaillé pour ses ballets, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire.
Vous avez le droit.
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est l'émotion du créateur qui est le plus important, ce n'est pas les techniques. Ça, c'est un rapport comme un terme l'échappe dans les médias. C'est la doxa. Et la rhétorique, c'est une rhétorique.
C'est drôle parce que dans vos interviews, il y a des expressions qui reviennent souvent. Vous dites « le reste, c'est de la bouillabaisse, le reste, c'est de la rhétorique ». Est-ce que vous vous disputez facilement avec les gens? Parce que j'imagine que quand on est entier, intègre et qu'on n'hésite pas à critiquer, les gens peuvent être susceptibles.
Oui, mais je n'ai pas l'esprit à la dispute. J'essaie d'éviter les disputes, ça ne sert à rien. Je me bats très bien, donc j'ai peur de personne, mais non. Je donne mon avis, mais je ne vais pas jusqu'au... Je ne trouve pas ce terme américain qui me vient à l'esprit, clash.
Oui.
Je ne vais pas jusqu'à la bagarre.
Our breath comes
And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. On
vient d'entendre ce soir en standard votre choix musical, Martial Rice. C'était John Best, Diamonds and Rust. Un mot dessus. Vous n'êtes pas obligé de commenter, hein, la musique ça ne se commente pas parfois. Je sais que vous n'aimez pas de parler de peinture par exemple.
Et c'est une très jolie chanson.
On vous a demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi la Pinacothèque Tosio Martinengo en Lombardie où vous êtes allé récemment avec votre épouse pour voir les Moroni et les Copier.
Oui, c'est un peintre merveilleux. C'est de grandes tensions. Et on est allé dessiner parce que mon épouse est peintre aussi, elle a beaucoup de talent. Et donc, nous sommes allés. C'est très émouvant de dessiner côte à côte le même peintre. Et donc, nous avons dessiné Moroni pendant deux jours, matin et soir, et c'est un peintre merveilleux, parce que c'est comme si son crayon était un scalpel. Et pour moi, lui est d'horreur, ou les jeunes peintres comme ça, comme un Menzel, c'est les peintres qui sont des dessinateurs avant tout. Si vous voulez, le plus important de bien comprendre en peinture, enfin, c'est mon idée. Si vous dessinez une forme juste, la couleur vient naturellement s'inscrire dans l'espace.
Et vous, vous vous considérez comme un dessinateur avant tout ?
C'est-à-dire, je mets avant tout le dessin, mais je ne me considère pas comme un dessinateur, parce que je ne suis pas très bon. Il me faut beaucoup de mal pour dessiner. Alors que je suis spontanément coloriste, sans problème. Mais pour le dessin, je travaille énormément.
Alors, il y a quelque chose d'amusant, c'est que vous qui avez utilisé beaucoup de néons dans votre œuvre, les premiers néons, vous les avez vus chez Raphaël. Est-ce que vous pouvez nous parler du portrait de Baltasare Castiglione au Louvre, où vous dites que les yeux du personnage sont un néon ?
Oui, si vous voulez, ce qui est le néon, moi j'ai utilisé le néon parce que c'était une surcouleur, une couleur plus intense. Si on regarde bien les œuvres de Raphaël et de quelques autres, on s'aperçoit que dans la manière qu'il a de poser les tons de couleur, il laisse un petit espace de toile moins peint et qui, à ce moment-là, par le fait qu'elle est cernée par des couleurs qui sont justes, elle brille comme un néon. C'est une tache de lumière qui m'a toujours impressionné.
Au cours de l'hiver 1801 que je passais à M, je rencontrai un soir dans le jardin public M. C, qui venait d'être engagé comme premier danseur à l'opéra de cette ville, où il obtenait un succès extraordinaire. Je lui dis que j'étais étonné de l'avoir aperçu plusieurs fois dans un petit théâtre de marionnettes dressé sur la place du marché, où la populace venait se réjouir à la représentation de petites pièces dramatiques et burlesques, accompagnées de danse et de chants. Il m'assura que la pantomime des poupées lui procurait un réel plaisir et me fit remarquer sans embâge qu'un danseur désireux de se perfectionner pourrait apprendre d'elle bien des choses.
On entend un extrait de « Sur le théâtre de marionnettes » de Kleist, lu par Dominique Rosan en 1990. C'est une chose que vous avez choisi aussi, Martial Rice, à faire découvrir aux auditeurs.
Oui, c'est un écrivain merveilleux et très concis. Personnellement, j'écris beaucoup, j'écris et j'essaye d'avoir cette concision des textes que je fais. Et lui, vraiment, en 50 mots, il a raconté toute une histoire et plongé les esprits dans une béatitude, oui, c'est ça le terme, une béatitude, douce béatitude.
Alors, je reviens à la peinture. Après une rétrospective à Pompidou en 2014 et au Palazzo Grassi en 2015, vous n'avez plus souhaité exposer dans un musée jusqu'à 2023, où il y a eu une exposition de vos œuvres récentes au musée Paul Valéry de Sète. Et c'est ça qui a décidé Daniel Templon a montré une trentaine de vos œuvres récentes dans sa galerie qui fête son 60e anniversaire. Il y a plusieurs productions monumentales, c'est jusqu'au 14 mars 2026. Il y a notamment La peur et la paix dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez connu Picasso. Est-ce que c'est en résonance avec La guerre et la paix de Picasso que vous avez fait ce diptyque ?
Non, pas du tout. J'ai connu Picasso qui était quelqu'un de très sympathique et gentil. Mais j'ai peu d'estime pour son travail, à part les dessins. C'est un merveilleux dessinateur, mais un peintre un peu fâcheux.
D'accord. Y a un ouvrage qui est consacré à vos œuvres récentes pour les auditeurs qui ne pourront pas se rendre à l'exposition à la Galerie Templon, qui est édité par les éditions Loubatière et le musée Paul Valéry de Sète. Et alors, dedans, j'ai appris qu'avant, vous n'auriez jamais laissé les gens regarder votre travail en cours de fabrication, maintenant ça vous est égal. Qu'est-ce qui a changé ?
C'est parce que j'étais timide. Maintenant, je sais que je fais du bon travail, je n'ai pas peur de montrer en train. À l'époque, j'étais très timide et j'avais une sorte de pudeur à ne pas montrer les choses qui n'étaient pas faites. Maintenant, je sais que même mes œuvres en cours sont regardables.
Vous avez toujours été votre propre autorité ou vous avez eu à un moment besoin de l'approbation d'un regard extérieur ?
J'ai toujours décidé par moi-même, jusqu'à ce que je rencontre Brigitte Aubignac, qui a un très bon œil, et qui est un excellent peintre, et dont j'écoute beaucoup les conseils, parfois très cruels.
Vous avez dit dans une interview que la culture n'allait rien sauver, mais qu'elle empêchait à la barbarie de s'emparer du monde. J'aime bien terminer par des recommandations. Alors en peinture, je sais que vous appréciez Morandi, par exemple, ou Lucian Freud, mais est-ce que vous voudriez bien nous recommander un livre ou un film ?
Un film ?
Ou un livre ?
Ah. Le type pris de cours. Alors, oui, on
peut... Allez-y, hein, réfléchissez.
Attendez. Il y en a quelques-uns, mais dans les médias, je vous citerai Gaspard Hauser de Werner Herzog.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est une histoire merveilleuse de cet individu très naïf qui, à force de naïveté, arrive à créer des choses très merveilleuses.
Merci beaucoup, Martial Reiss. Vos œuvres sont visibles à la galerie Templon, 28 rue du Grenier, Saint-Lazare à Paris, jusqu'au 14 mars prochain. Pour ceux qui ne pourront voir l'exposition, il existe un ouvrage consacré à vos œuvres récentes, édité par les éditions Loubatière et le musée Paul Valéry de Sète, et à signaler aussi au printemps prochain une exposition au MOMUS, le musée d'art contemporain de Thessalonique. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Anaïs Boucher et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Philippe Duclos.